Monsieur Dominique Désiré Eguenot, bonjour.
Bonjour.
Après la signature de l'accord de paix, tout porte à croire que aujourd'hui le gouvernement est sur la trajectoire de négocier individuellement avec les groupes armés. C'est le cas de Ali Darassa qui a suscité beaucoup de réactions ces derniers temps. Quelle analyse faites-vous de la démarche du gouvernement?
Moi, je pense que il n'y a pas lieu d'aller vers des accords supplémentaires. Comme je l'ai toujours dit, on a signé un accord avec les groupes armés. On n'était pas obligé de le faire. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a choisi, lui, d'emprunter le chemin d'un accord de paix. Mais l'accord de paix, c'est juste un instrument qui nous permet d'aller vers un objectif qui est celui de retrouver la paix, la sécurité, restaurer la cohésion sociale et parvenir à la réconciliation nationale dans notre pays. L'accord de paix, c'est un chemin pour aller vers ces objectifs-là. Maintenant, on se rend compte que le chemin qu'on a emprunté n'est pas le bon. À cause de quoi? À cause de la perfidie des groupes. Il n'y a pas une bonne volonté du côté des groupes armés. Aujourd'hui...
Mais cette perfidie ne peut être justifiée aujourd'hui par le fait que le gouvernement ne prend pas vraiment la fermeté vis-à-vis de ces groupes armés.
Mais rien n'empêche le gouvernement aujourd'hui d'être ferme. À partir du moment où les groupes armés ont des engagements dans le cadre de l'accord, ils doivent les exécuter. Mais on se rend compte qu'ils ne les exécutent pas. L'accord prévoit un mécanisme de sanction à travers l'article 35. Donc l'article 35 aujourd'hui mérite d'être appliqué. Il n'est pas question aujourd'hui d'aller négocier et signer un quelconque accord supplémentaire avec Ali Darassa ou avec Sidiki ou avec Al-Khatim. C'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui.
Donc pour vous, aujourd'hui, négocier avec Ali Darassa, ça c'est un accord de trop.
Négocier avec Ali Darassa, c'est un accord de trop. On doit simplement contraindre Ali Darassa à exécuter ses engagements. Et s'il n'exécute pas ses engagements, eh bien qu'on applique intégralement l'accord, c'est-à-dire qu'on applique les dispositions de l'article 35, que les garants et les facilitateurs de l'accord puissent appliquer les dispositions de l'article 35 en prenant des sanctions contre Ali Darassa et son groupe armé.
Justement, parlons du rôle des facilitateurs et des garants. Ces facilitateurs ont aussi pris part à ce huis clos qu'a tenu le Premier ministre ici à Bangui en présence de Ali Darassa. Comprenez-vous aujourd'hui la réaction de la société civile qui pense que ces facilitateurs et garants n'ont pas joué franc jeu et donc y a-t-il lieu qu'ils partent? Est-ce que vous comprenez la colère de la société civile?
La colère de la société civile, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre et c'est même justifié et bien justifié. Seulement, ce que je dis, je pense que le Premier ministre a été dans la logique de l'application de l'accord. Parce qu'il a parlé de huit clos avec Ali Darassa pour essayer de ramener ce dernier à la raison. Afin que dans le cadre des USMS, qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient faites. Bon, le problème qui s'est posé, c'était par rapport au retour de Ali Darassa à Bambari. Et je pense que les gens ne sont pas prêts, et ça le gouvernement doit le savoir, les gens ne sont pas prêts à accepter que Ali Darassa revienne à Bambari, surtout que c'était la population qui avait manifesté le désir de voir Ali Darassa être éloigné de Bambari, et c'est comme ça qu'il a été contraint par les forces spéciales portugaises à quitter Bambari pour aller se réfugier à Bokolobo. Et aujourd'hui, on apprend qu'il a Bambouti à Obo et puis à Zemio.
Est-ce que pensez-vous que contraindre Ali Darassa, le pousser à respecter son accord, c'est le meilleur moyen aujourd'hui, dès lors que lui-même il a signé l'accord noir sur blanc de ne pas quitter son périmètre d'antan, alors qu'aujourd'hui, dans les faits, il est partout et il fait chanter tout le peuple?
Vous savez, monsieur Jean-Ferrand Kouéna, moi, en tant que citoyen centrafricain, je suis en colère. C'est une colère saine. Comme je l'ai toujours dit, les groupes armés n'ont pas droit de citer dans notre République. Ils ne sont pas les bienvenus dans notre République et ils n'ont pas droit de citer dans l'État centrafricain. Ce sont les partis politiques qui ont droit de citer. C'est l'armée nationale, les FACA, la gendarmerie, la police, ce sont ces institutions-là qui ont droit de citer, mais pas les groupes armés. Mais aujourd'hui, les groupes armés se comportent comme s'ils avaient droit de citer et que on doit négocier avec eux, qu'on doit compter avec eux, non pas seulement aujourd'hui, mais au moins pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est comme si eux, ils s'inscrivent dans la durée, dans le cadre de l'accord. C'est comme s'ils veulent que l'accord de paix ne prenne pas fin. Moi, j'ai toujours dit que l'accord de paix, c'est un instrument pour aller vers la paix, mais c'est limité dans le temps.
Le hic dans tout ça, c'est le processus électoral en cours avec le rôle des groupes armés qui ne se sont pas encore désarmés. Pensez-vous que les groupes armés vont influencer tout le processus électoral?
De par le comportement des groupes armés, vous savez très bien que les groupes armés ont toujours été dans une posture qui ne permet pas d'appliquer l'accord qu'ils ont signé avec le gouvernement. Les élections pointent à l'horizon et quand vous regardez le comportement d'Ali Darassa, vous regardez le comportement de Sidiki Abbas, le comportement de Al-Khatim, eh bien, on a des raisons de croire que les groupes armés vont influencer le processus électoral. Ils vont jouer un rôle négatif sur l'avancement du processus électoral. Et nous, en tant que Centrafricains, nous sommes inquiets parce que nous voulons avoir des élections libres. Et les élections libres, c'est sans l'influence des groupes armés. Or, aujourd'hui, les groupes armés se comportent dans les différentes localités qu'ils contrôlent comme s'ils avaient la volonté de nuire au processus électoral. Même les gens de l'ANE qui sont censés aller sur le terrain du côté de Obo, Zemio, etc., ils craignent pour leur vie. Et en craignant pour leur vie, je pense que c'est pas pas sûr qu'on puisse avoir des élections à bonne date d'ici le 27 décembre, ça c'est dingue. Et si on a les élections d'ici le 27 décembre, c'est pas sûr qu'on ait des élections, je dirais, crédibles, transparentes, libres. J'ai dit bien des élections libres. Parce que ces groupes armés, le moment venu, s'ils continuent à occuper le territoire, ils vont influencer négativement, d'abord, l'enrôlement et ensuite le déroulement du scrutin le 27 décembre.
Parlons toujours du processus électoral. Le processus électoral semble avoir du plomb dans l'aile avec des critiques dans le processus d'enrôlement, le nombre de bureaux d'enregistrement insignifiant. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du travail de l'ANE?
Je pense que l'ANE essaye de faire un travail pour qu'on ait des élections à bonne date. Mais simplement, je constate que, comme tout le monde, qu'il y a beaucoup de failles. Ça donne à réfléchir. Le processus électoral semble dans l'impasse aujourd'hui, ça piétine. À cause d'un certain nombre de raisons, vous avez un très faible engouement des électeurs pour aller se faire inscrire par rapport à l'enrôlement. Et ça, c'est pas seulement au niveau de Bangui, mais dans tout le pays. Vous avez un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées par les agents recenseurs dans l'accomplissement de leur mission, que ce soit à Bangui ou en province. Et on entend aussi parler de la disparition des tablettes, ça et là. Et ça, c'est un problème. Un réel problème. Récemment, on a décrié la circulation de beaucoup de faux actes de naissance à Bangui et dans les provinces. On a suivi. Et ça, c'est un gros problème. Et on a aussi un certain nombre de localités qui sont inaccessibles à cause de l'insécurité. Et face à tous ces problèmes, je pense que pour qu'on aille à des élections apaisées, libres, transparentes, crédibles et dont les résultats seront acceptés par tous et éviter qu'il y ait une crise majeure dans le pays, une crise post-électorale, il faut que dès maintenant que le gouvernement, partis politiques, les personnalités politiques indépendantes, la société civile et les différents partenaires de la République centrafricaine puissent comprendre qu'il est nécessaire d'aller à un dialogue ou à une concertation nationale pour recadrer les choses, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de contestation des résultats des élections à venir.
Justement, sur l'idée de la concertation, la Cour constitutionnelle avait jeté la base, sauf que le Premier ministre ne trouve pas l'idée de la concertation opportune pour le moment.
Ben, la Cour constitutionnelle a rendu une décision et vous savez que la décision de la Cour est insusceptible de recours. Elle s'impose à tous les pouvoirs publics, elle s'impose à tous les citoyens et donc... si la Cour constitutionnelle parle de concertation, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'aller à la concertation. Sauf à nous dire qu'on va avoir les élections à bonne date. Mais si on n'arrive pas à avoir les élections à bonne date le 27 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Parce que regardez tous ces problèmes que je viens de lister là. C'est des problèmes réels par rapport au travail que fait l'ANE pour qu'on aille aux élections le 27 décembre. Mais quand vous regardez tous ces problèmes là, eh bien, on est pratiquement dans l'impossibilité d'aller aux élections le 27 décembre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut qu'il y ait une concertation.
Donc, implicitement, vous voulez dire que si la communauté internationale qui est censée accompagner le gouvernement dans le processus de désarmement ou dans le processus d'influencer ou encore contraindre les groupes armés à désarmer et à accompagner le processus électoral, si la communauté internationale ne fait rien, cette communauté internationale sera demain responsable et comptable de ce qui se passe en Centrafrique.
Vous savez, les membres de la communauté internationale qui sont ici en République centrafricaine, ils savent très bien qu'il y a une loi qui est unique. Et cette loi, c'est la suivante. C'est qu'aucun État au monde, juridiquement constitué, n'accepte pas la naissance et la présence des groupes armés sur son territoire. Aucun État. Vous n'allez pas me citer un seul État au monde qui, aujourd'hui, accepte la naissance, la présence, et je dirais même, comme dans le cas centrafricain, la prolifération des groupes armés sur son territoire. C'est interdit partout. Il n'y a qu'en République centrafricaine où on voit des groupes armés naître comme des champions, poussés comme des champions, occuper des territoires, rivaliser avec les forces armées, concurrencer l'État dans l'exercice de son autorité. Et on voit également la communauté internationale qui demande à nos autorités d'accepter de négocier avec ces groupes armés, de composer avec eux, de leur faire de la place dans les institutions, de les nommer au gouvernement, dans les cabinets à la présidence, à la primature, etc. Et on le fait. Donc, chez nous, nous sommes une exception. Mais il faut qu'à un moment donné, la communauté internationale comprenne que ce que les autres États n'acceptent pas, en tant qu'État centrafricain, nous avons aussi le droit de ne pas l'accepter.
Aujourd'hui, la République centrafricaine, à l'instar des autres pays francophones, tend vers la célébration de 60 ans d'indépendance. Quelle lecture faites-vous de la situation globale de la République centrafricaine, tant sur le plan économique que sur le plan social, sur le plan politique, tant qu'universitaire?
Vous savez, on est indépendant depuis le 13 août 1960. Ça fait 60 ans. Moi, en tant que citoyen centrafricain, je constate tout simplement que, par exemple, nous n'avons pas l'électricité 24 heures sur 24. Et ça m'interpelle. Après 60 ans d'indépendance, pas même dans la capitale, c'est-à-dire au niveau de Bangui, la capitale, on n'a même pas l'électricité 24 heures sur 24. Est-ce que c'est un sujet de fierté? Non. Vous regardez le réseau routier. Quand vous regardez l'état des routes dans la capitale, est-ce qu'on en est fier? Non. Et c'est après 60 ans d'indépendance.
Monsieur Dominique Désiré-Hérénan, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.